Très Saint-Père, éminence, excellence, distingués membres de cette assemblée, c'est un immense honneur pour moi de pouvoir m'adresser en présence de votre sainteté à cet aréopage de princes de l'Église rassemblés dans cette enceinte sacrée. Comme vous le savez, je ne suis plus en charge de la Minuade. Et les vues que j'exprime n'engagent maintenant que moi. Le débat sur le Darfour est devenu si polarisé qu'il est difficile de maintenir une position objective. Cela est d'autant plus regrettable que seule une approche neutre peut garantir des solutions durables. Devant votre sainteté, je voudrais porter un témoignage le moins partial possible. Je sais pouvoir parler en toute sérénité, car l'Église est une force de paix et que la paix exige la vérité. Fin 2005, le Congo est élu comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2006-2007. Et en janvier 2006, le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, est élu président en exercice de l'Union africaine. Ces deux décisions ont fait du ministre des Affaires étrangères que j'étais alors un observateur privilégié des grands problèmes qui secouaient l'Afrique, au premier rang desquels se trouvait la crise du Darfour. J'ai ainsi pu suivre l'évolution de ce dossier de plus près. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Alpha Oumar Konaré, ont porté leur choix sur ma personne pour diriger la première mission hybride Nations Unies-Union africaine, et que le président Denis Sassou Nguesso a donné son accord, je me suis considéré comme honoré d'une triple confiance. Il m'appartenait de la mériter. Très Saint-Père, éminence, excellence. Il est généralement admis que le conflit du Darfour a éclaté en février 2003 lorsqu'un groupe rebelle, le Sudan Liberation Army, conduit par Abdul Wahid Mohamed El Nour, attaque Goulou, le chef-lieu du Jebel Marra. Plus tard, en avril, ce groupe attaque l'aéroport d'El Fasher, capitale du Darfour. Un deuxième groupe, connu sous le nom de Justice and Equality Movement, JEM, dirigé par Khalil Ibrahim, est créé par la suite. La réponse du gouvernement soudanais prend alors la forme de ce que d'aucuns ont qualifié de contre-insurrection au rabais, d'une extrême violence, exploitant les rivalités ethno-sociologiques avec l'emploi des Janjaweeds à l'infâme réputation. Les conséquences sont épouvantables. Des centaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées, à l'intérieur, les IDPs et des réfugiés. D'innombrables violations de droits de l'homme, une crise humanitaire sans précédent. Survenant moins de 10 ans après le génocide du Rwanda, la crise du Darfour a tout de suite posé la question du génocide. Vous connaissez la controverse sur ce point sensible. Telle pourrait être résumée rapidement la situation. Pourtant, une analyse plus profonde montrerait que le conflit du Darfour plonge ses racines dans l'histoire du Soudan. L'histoire, la marginalisation des régions périphériques et leur sous-développement, la dégradation de l'écosystème sont aussi à prendre en compte. C'est une crise du Soudan au Darfour. Cette crise est aussi liée à l'histoire du Tchad voisin. Par exemple, le Frelinat, créé dans les années 60 pour combattre le président François Tombalbaï du Tchad, a été fondé à Niala, au Darfour. Et ce n'est pas un hasard si le premier médiateur dans ce conflit a été le président tchadien, Idriss Déby. Le long conflit du Tchad a aussi contribué au flux d'armes légères au Darfour. Il a été dit que le Darfour des années 1990 manquait d'eau, mais était en revanche inondé de fusils. Bien avant 2003, la crise actuelle commence en réalité par une guerre civile entre les Fours et les Arabes, dans laquelle chaque camp accusait l'autre de tentatives de génocide. Voici deux citations. Première citation. La sale guerre qui nous a été imposée a commencé comme une guerre économique, mais a très vite pris un caractère génocidaire, ayant pour but de nous chasser de notre terre ancestrale. Le but en est un holocauste total et l'annihilation complète du peuple Four et de tout ce qui est Four. Deuxième citation. Notre tribu arabe et les Fours ont coexisté pacifiquement durant toute l'histoire connue du Darfour. Mais la situation a été déstabilisée vers la fin des années 70, lorsque les Fours ont lancé le slogan de « Darfour au four ». Les Arabes étaient dépeints comme étrangers qui devaient être expulsés du Darfour. Ce sont les Fours qui, dans leur quête d'expansion de la prétendue ceinture africaine, veulent chasser tous les Arabes de cette terre. Fin de la deuxième citation. Ces paroles pleines de haine ont été prononcées à la conférence de réconciliation tenue à El Fasher du 29 mai au 8 juillet 1989. Il y a donc 20 ans. Pour autant, cette dimension ethnique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce conflit est bien plus complexe que la description manichéenne qui est communément répandue. Très Saint-Père, Éminence, Excellence, en dehors des organisations humanitaires qui continuent de faire un travail admirable au service du peuple soudanais du Darfour, l'Union africaine fut la première à réagir. En avril 2004, elle organise des pourparlers qui aboutissent à la signature de l'accord de cessez-le-feu humanitaire de N'Djamena entre le gouvernement du Soudan et les deux mouvements rebelles, à savoir le SLA et le GEM. C'est cet accord qui permettra l'établissement de la MUAS, AMIS en anglais, mission de l'Union africaine au Soudan, avec l'appui de nombreux donateurs, dont il est juste de citer au moins l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et le Canada. La MUAS a commencé avec 60 observateurs et une force de protection de 300 soldats qui fut par la suite portée à plus de 7000 hommes. C'était la première mission de maintien de la paix organisée par l'Union africaine et ce n'était pas la plus facile. La MUAS a été l'objet de nombreuses critiques de la part des médias occidentaux. Ces critiques sont injustifiées et injustes. Le travail abattu par cette mission a été énorme et mérite tous les éloges. Dans des conditions que personne d'autre ne voulait assumer, ces Africains ont assuré avec abnégation et dévouement la présence de la communauté internationale au Darfour. Ils ont porté témoignage de la compassion humaine. Ils ont posé les bases de ce qui est aujourd'hui la MINUAD. 61 d'entre eux ont fait le sacrifice suprême. Nous leur devons le respect. Très Saint-Père, dès la fin de 2005, il est apparu difficile pour l'Union africaine, devant la complexité des problèmes de toute nature posés par la gestion de la MUAS, de continuer à assumer cette responsabilité. L'Union africaine prend alors la décision de transférer le fardeau aux Nations unies, dont c'est la mission après tout. Le gouvernement du Soudan s'oppose fermement à cette décision et toute l'année 2006 se passe à essayer de convaincre le gouvernement soudanais de la nécessité de ce transfert de responsabilité. Ce n'est que le 16 novembre 2006 que le secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, alors sur le départ, fait la proposition d'une mission hybride. Le gouvernement soudanais accepte alors et c'est l'acte de naissance de la MINUAD, la mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour. La MINUAD a été formellement créée par la résolution 1769 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le rapport conjoint du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Commission de l'Union africaine. Elle est prévue pour comprendre 20 000 militaires, 6 000 policiers et autant de civils, devenant ainsi la plus grande force de maintien de la paix au monde. Elle devait être dotée de tous les équipements nécessaires à l'accomplissement de son mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et de fait, elle devait être précédée de deux modules de soutien, Light Support Package et Heavy Support Package, soutien à la MUAS pour la renforcer avant le transfert d'autorité. La MINUAD a pour mandat de contribuer au rétablissement des conditions de sécurité nécessaires à l'apport de l'aide humanitaire, d'assurer la protection de la population civile, de suivre et vérifier l'application des divers accords de cessez-le-feu et de contribuer à la mise en œuvre de l'accord de paix d'Abuja et de tout accord ultérieur. Le déploiement de la MINUAD a constitué un grand défi. Il s'agit de la plus grande mission au monde dans la région la plus enclavée du plus grand pays d'Afrique. En Afrique, le point le plus éloigné de la mer, si l'on le cherchait, se trouve au Darfour. Les infrastructures de transport sont inexistantes. La MINUAD succède à la MUAS qui n'a pas pu bénéficier des modules de soutien promis. Tout cela a contribué à une série d'obstacles qu'il a fallu surmonter. La réticence, sinon la résistance du gouvernement soudanais à la présence d'une mission des Nations Unies au Darfour, a été également un problème à gérer. Les conditions du débat international sur le Darfour avaient stigmatisé le gouvernement du Soudan, qui, de son côté, ne voyait dans la communauté internationale qu'une force dont le but était le renversement du régime. Mais, avec l'aide de l'Union africaine, il a été possible de diminuer la suspicion envers la MINUAD. Il a fallu pour cela travailler étroitement avec le gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement soudanais est convaincu que la MINUAD est une force de paix et non l'avant-garde d'une force d'invasion. Une commission tripartite, ONU, Union africaine et gouvernement du Soudan, a été mise en place pour résoudre tout problème concernant le déploiement de la MINUAD. Cet engagement de ma part auprès du gouvernement soudanais n'a pas toujours été bien vu ni compris. La plupart des missions de maintien de la paix sont déployées dans des États en faillite, où le gouvernement est soit inexistant, soit impuissant. La Bosnie, à l'époque, le Kosovo, Timor, même si aujourd'hui ce pays a pu retrouver la paix. Dans ces cas-là, la mission de l'ONU devient un véritable gouvernement et le représentant spécial, quasiment le chef du gouvernement. Ce n'est pas le cas au Soudan. Les Nations Unies doivent, sur ce point, effectuer une véritable révolution culturelle. Aujourd'hui, on peut considérer que l'essentiel des troupes sera sur le terrain vers la fin de l'année. Au moment où je quittais, on en était déjà à 78% et l'on pensait que vers la fin de l'année, on serait à 92-95%. Il faut cependant noter que certains moyens techniques promis depuis les modules de soutien n'ont toujours pas été fournis, et en particulier les hélicoptères militaires qui permettraient une mobilité accrue dans un territoire de la taille de la France. Quelquefois, on dit du Texas, c'est la même chose, 500 000 de kilomètres carrés. C'est l'une des inconséquences des décisions de la communauté internationale. La MINUAD a également eu à faire face à la méfiance, voire à l'hostilité des déplacés, les victimes donc. Faire accepter la MINUAD aux déplacés et aux mouvements armés a été plus difficile. Beaucoup d'entre eux rejetaient son caractère africain. D'autre part, leur hostilité à l'accord d'Abuja, dont la MINUAD doit assurer la mise en œuvre, compliquait encore plus la situation. Mais notre action sur le terrain leur a prouvé notre impartialité. Lors de la crise du camp de Kalma, au sud Darfour, où une opération de police a dérapé et conduit à la mort de 38 déplacés, lors de l'expulsion des 13 organisations non gouvernementales humanitaires qui travaillaient au Darfour cette année, et lors des combats à Mouadjeri, à sud Darfour, et Oumbarou, dans le nord, entre le GEM et les forces gouvernementales, où la MINUAD a porté assistance aux blessés des deux camps, tout en protégeant les milliers de civils qui avaient trouvé refuge auprès d'elle, ils en ont été convaincus. Ils l'ont déclaré dans une lettre émouvante que nous avons considérée à la MINUAD comme une véritable décoration de la mission. Aujourd'hui, la MINUAD est partout présente au Darfour. Toutes les composantes de la mission, les militaires, la police, les civils, les affaires politiques, les affaires civiles, des droits de l'homme, et d'une composante particulière que nous appelons DDDC, Darfur Darfur Dialogue and Consultations, maintiennent des rapports réguliers avec toutes les parties de la société civile, ainsi que la population en général. Ils observent la situation au jour le jour et peuvent en rendre compte fidèlement à la communauté internationale. Et ils participent avec succès à la résolution des querelles locales. Très Saint-Père, quelle est aujourd'hui la situation au Darfour? Durant les 26 mois que je viens de passer au Darfour, à la tête de la MINUAD, j'ai pu observer une amélioration progressive de la situation de sécurité au Darfour, et ce, malgré la persistance de deux risques majeurs. La poursuite des opérations militaires entre le GEM et les forces gouvernementales, d'une part, et la dégradation des relations entre le Tchad et le Soudan, d'autre part. Ce sont les deux risques majeurs. À cela, il convient bien évidemment d'ajouter les affrontements intertribaux et la montée du banditisme, causée pour l'essentiel par l'effondrement de la loi et de l'ordre. La criminalité et le banditisme sont aujourd'hui le souci principal en matière de sécurité. Nous observons en plus une nouvelle tendance à l'enlèvement de personnes pour des rançons. Deux travailleurs de la MINUAD sont d'ailleurs actuellement retenus otages avec une demande de rançon. De même que deux humanitaires, une dame de l'Ouganda et une autre d'Irlande, sont également otages et n'ont pas encore été libérés. Et c'est pour de l'argent. La stratégie de la MINUAD pour la protection des civils vise à s'attaquer à toutes ces causes de danger pour les civils innocents. Il s'agit pour la MINUAD de renforcer sa présence dans les camps de déplacés. Elle est désormais présente 24 heures sur 24 dans 15 cas. Et l'on pense que d'ici la fin de l'année, quand ils auront toutes les forces, ils pourront étendre cela. Et aussi de multiplier le nombre de patrouilles policières et militaires, et aussi d'aller plus loin. Mais cela dit, la situation a radicalement changé depuis la période intense de 2003-2004, quand des dizaines de milliers de personnes étaient tuées. Aujourd'hui, en termes purement numériques, nous pouvons dire que le conflit du Darfour est un conflit de basse intensité. Je ne voudrais pas insister sur cette comptabilité macabre qui passionne les médias. Un mort est un mort de trop, et les chiffres que j'avais cités au Conseil de sécurité ne l'avaient été que pour soutenir l'analyse. Cela ne veut en aucun cas dire que le conflit du Darfour est réglé. En effet, le conflit se poursuit au Darfour. Les civils continuent de courir des risques inacceptables. Des millions de personnes sont encore dans des camps de déplacés ou sont des réfugiés. Du fait de l'insécurité, elles ne peuvent rentrer chez elles et reprendre une vie normale. Aucune solution n'a été encore portée aux graves injustices et crimes commis, en particulier au plus fort des hostilités, en 2003-2004. Les progrès que nous observons sur le terrain doivent être consolidés par un accord de paix qui doit être inclusif. Il devrait comprendre non seulement les mouvements armés, mais aussi l'ensemble des composantes de la société du Darfour, y compris la société civile, les déplacés, les réfugiés, sans oublier les Arabes, qui sont trop souvent assimilés aux Janjaweeds. En effet, seul un accord politique accepté et partagé par tous est à même de ramener une paix durable au Darfour. En réalité, c'est ce qui manque le plus à la MINUAD aujourd'hui, un accord de paix. En effet, cette mission de maintien de la paix n'a pas de paix à maintenir. Il n'y a pas de solution militaire au problème du Darfour. Cela n'est tout simplement pas possible. Personne n'a les moyens de gagner militairement. La seule option est donc un accord politique et cet accord doit prendre en compte tous les aspects du problème, locaux, régionaux, politiques, socio-économiques, sans oublier bien sûr la grave question humanitaire. Les différentes tentatives de négociation depuis 2003 n'ont pas réussi à trouver une solution. L'accord d'Abuja, signé le 5 mai 2006, n'a pas été inclusif et a été rejeté par une grande partie des Darfouriens. L'actuelle médiation, Union africaine, Nations unies, doit en tenir compte et rechercher la participation de tous. Les deux prochaines années seront cruciales pour le Soudan. Des élections générales sont prévues en avril 2010. Et en 2011, il y aura le référendum d'autodétermination du Sud-Soudan. Il est nécessaire que le Darfour participe à des élections justes et transparentes et que pour l'exercice d'autodétermination du Sud, se déroule dans de bonnes conditions. Il faudrait que le problème du Darfour soit résolu. C'est peu de dire que le temps presse. Très Saint-Père, éminence excellente, de terribles violations de droits de l'homme ont été commises au Darfour, particulièrement en 2003-2004. Ces problèmes n'ont pas été traités. La paix et la justice sont les deux faces d'une même médaille. La question n'est pas de savoir si la justice doit passer, mais comment. Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé et obtenu la délivrance d'un mandat d'arrêt contre le président du Soudan. La MINUAD a toujours insisté sur le fait que cette question était en dehors de son mandat. Et la MINUAD n'a jamais commenté cette décision de justice. Mais cette question domine le débat et tout le processus de traitement du problème du Darfour. L'Union africaine, tout en précisant qu'elle ne tolère en aucun cas l'impunité, a demandé que ce mandat d'arrêt soit différé pour donner plus de chances à la paix. Mais le Conseil de sécurité des Nations unies n'est pas parvenu à un accord sur l'application de l'article 16 du statut de Rome. Cela a conduit l'Union africaine à demander à ses membres de ne pas exécuter le mandat d'arrêt. Nous en sommes là. M'exprimant à titre strictement personnel, je considère que nous sommes aujourd'hui dans une impasse. L'exécution d'un mandat d'arrêt contre un chef d'État en exercice n'est pas chose aisée. De même, on peut comprendre la réticence à négocier exprimée par certains mouvements armés. Pourquoi négocier avec un criminel en instance d'être arrêté? L'Union africaine a mis en place une commission de haut niveau, High Level Panel on Darfour, présidée par le président Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud, et comprenant entre autres les présidents Abdou Salami Aboubakar, ancien président du Nigeria, et Pierre Buyoya, ancien président du Burundi, pour étudier cette question de la paix, de la justice et de la réconciliation et faire des recommandations. La commission est composée d'éminents spécialistes et connaisseurs des problèmes du Darfour, du Soudan et de la justice. J'ai été entendu par cette commission comme plus de 3000 autres personnes. La MINUAD, et plus particulièrement sa composante DDDC, a accordé tout son soutien à cette commission, y compris le soutien logistique, bien sûr. La commission a présenté son rapport hier à Addis Abeba, le 8 octobre. Ce rapport devrait comprendre des pistes pour sortir de l'impasse. La communauté internationale devrait considérer ce rapport avec objectivité et esprit constructif. L'Église, force de paix, autorité morale majeure, pourrait s'intéresser au travail de cette commission. Peut-être pourrait-on y trouver une voie de sortie de cette impasse. Très Saint-Père, Éminence, Excellence, la Minuade est un formidable instrument de paix, unique en son genre, en ce qu'elle est née de la volonté des deux organisations, Union africaine et Nations unies. Il appartient à la communauté internationale de bien l'employer, cet instrument. Il fut un temps où l'hybridité était synonyme de bâtardise et de tare. Mais aujourd'hui, quand on entend parler de voitures hybrides, on est à la pointe du progrès. La Minuade représente la communauté internationale dans son ensemble au Darfour, et non les vues de tel ou tel pays membre. Il faut donc renforcer la Minuade, lui donner tous les moyens dont elle a besoin, et surtout cet accord de paix. Les hommes et les femmes qui servent la communauté internationale à la Minuade sur ce front ne cessent de montrer leur dévouement et leur abnégation. Il est plus important, le plus important est que la coopération entre les promoteurs de la Minuade, l'Union africaine et les Nations unies reste sincère. Le caractère hybride de la Minuade, qui a été le véritable visa d'entrée des Nations unies au Darfour, ne doit pas apparaître comme une simple ruse, comme un cheval de Troie. L'Union africaine ne doit pas être un simple sleeping partner, mais doit jouer tout son rôle. Autrement, c'est l'échec assuré. Le Soudan est le plus grand pays d'Afrique. Il est à la charnière de deux mondes, l'Afrique et le monde arabe. Il a des frontières avec 9 pays africains, le 10e pays étant l'Arabie saoudite de l'autre côté de la mer Rouge. Djeddah est plus près de Khartoum qu'Addis Abeba. On peut dire, depuis l'indépendance de ce grand pays, le 1er janvier 1956, qu'il n'a que sporadiquement connu la paix. L'accord global de paix, CPA, qui a mis fin à plus de 20 ans de guerre civile entre le Nord et le Sud, a suscité tous les espoirs. Pour la première fois, un Soudan démocratique était entrevu. Au moment où la violence semble diminuer au Darfour, il est inquiétant de noter que c'est maintenant dans le Sud que les tueries reprennent. La paix serait-elle le rocher de Sisyphe qui, pour le plus grand malheur des Soudanais, retombe dès que l'on croit atteindre le sommet de la montagne? Le Soudan est un. Il faut que la communauté internationale pense Soudan et non plus Darfour et Sud. Dans cette vision holistique, l'Église a un rôle majeur à jouer dans un Soudan pluriel entre le Sud chrétien et animiste et le Nord musulman dans le Darfour. C'était le rêve d'un grand Soudanais, John Garang, le rêve d'un nouveau Soudan, en paix dans une Afrique en paix. Faisons que ce soit aussi notre rêve. Très Saint-Père, Éminence, Excellence, distingués membres de cette Assemblée, je vous remercie de votre bienveillante attention.